Vie fraternelle et solidaire, le magazine diocésain présenté par Isabelle Nagar. Solène Bondu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission pour la protection des mineurs pour le diocèse de Nantes depuis pas très longtemps, finalement deux ans.
Et demi. Depuis 2 ans et demi.
Voilà, ma mémoire n'était pas trop mauvaise, 2 ans et demi. C'est un poste nouveau dans la vie de l'Église diocésaine et de l'Église catholique. Ça a bien sûr un lien avec le rapport de la SIAZ. Nous allons en parler dans cette émission en annonçant déjà peut-être la prochaine veillée mémorielle pour les victimes d'abus sexuels et de confiance dans l'Église. Alors c'est une veillée qui est devenue annuelle, qui a lieu le 3e vendredi de carême chaque année.
Exactement, c'est une décision qui a été prise par la Conférence des évêques de France lors d'une assemblée plénière, de se dire qu'il était important que l'ensemble des chrétiens en France fassent une veillée mémorielle, une célébration mémorielle. Voilà, et ils ont choisi le créneau du 3e vendredi de carême, voilà, en se disant que c'était une période qui était importante et qui permettait à tous un peu de marquer les choses et de pouvoir donner la parole aux victimes et aux proches et de pouvoir faire mémoire et de pouvoir reconnaître en fait l'ensemble de ces personnes.
C'est un événement qui a peut-être un peu de mal à trouver sa place dans les autres événements de la vie du diocèse. Beaucoup se demandent encore à qui il s'adresse, qui doit se sentir concerné. Votre réponse est assez claire.
Ah ben, elle s'adresse à tout le monde. Voilà. Après, c'est vrai que c'est quand même rare. On ne va pas forcément voir les victimes aller sur leur paroisse et dire « je souhaite qu'il y ait une veillée mémorielle ce soir-là ». Nous, après, avec la cellule d'accueil et d'écoute, on entend en fait les victimes nous dire qu'elles ont été, elles, attentives à savoir si la paroisse relayait ce genre de proposition et savent nous faire remonter parfois le fait qu'on ne l'ait pas fait. Les paroisses, elles, nous remontent la difficulté justement de savoir à qui on s'adresse. Certes, on s'adresse aux victimes parce que c'est elles qui sont au centre de ce moment, de cette veillée de prière. Mais c'est aussi important pour l'ensemble des proches de ces victimes. Et quand je dis proches, c'est vraiment au sens large. C'est autant la famille, les amis des victimes, mais aussi la communauté chrétienne qui souffre des différents abus qui ont pu avoir lieu ou qui ont encore lieu aujourd'hui. Et c'est important de faire corps ensemble, justement, pour reconnaître ce qui a pu se passer et surtout pour montrer et faire signe qu'on ne souhaite plus que cela se reproduise.
Donc chaque paroisse est invitée à vivre ce temps, mais il y a aussi une démarche diocésaine qui a lieu cette année donc à Châteaubriant. Vous changez chaque année de lieu?
Oui, l'idée c'est d'aller un petit peu dans différents lieux et de ne pas reproduire chaque année la même proposition. On a déjà fait des célébrations, on avait fait des chemins de croix. Voilà. Cette année, il se trouve qu'il y a le Festival du cinéma chrétien à Châteaubriant qui propose un ciné-débat autour du film Le prix d'une vie. Et ça nous semblait important de pouvoir de la même manière faire corps, nous aussi, entre la proposition de la veillée mémorielle et de ce temps proposé. Et donc, on va aller proposer cette année à Châteaubriant avec Monseigneur Père Seroux, une veillée avant ce ciné-débat.
Est-ce que vous pouvez nous indiquer l'heure, le lieu et du coup le déroulement de cette soirée ? On peut vivre en un seul tenant ?
Exactement. La célébration des vêpres, elle a lieu à 18h à Châteaubriant, dans le centre. Il y a ensuite à 18h45 un petit repas partagé, un peu léger vu que nous sommes en période de carême, mais quand même qui nous semblait important, entre autres, pour pouvoir échanger. Les victimes nous disent des fois que la célébration c'est bien, mais qu'elles ont aussi besoin de pouvoir parler. Et puis pour les personnes qui se déplaceraient pour le ciné-débat, de ne pas se retrouver voilà, seule entre la veillée et le ciné-débat. Donc l'idée, c'est vraiment un petit moment de partage en toute simplicité et en même temps en toute fraternité. Voilà. Et puis, à 20h, il y aura donc le ciné-débat au cinéma de Châteaubriand avec ce film. Et puis, plusieurs témoins et plusieurs spécialistes qui seront là, en fait, pour le ciné-débat, dont Jean-Luc Pilet, qui est le responsable de la cellule d'accueil et d'écoute, et puis un juriste de la CRR. Voilà, pour pouvoir répondre à CRR.
CRR, ça veut dire quoi ?
Commission de reconnaissance et de réparation.
Quel est ce film ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots du film qui est proposé donc, par l'équipe de la paroisse de Châteaubriand ?
C'est un documentaire fait à partir des témoignages des victimes d'ICE. C'est un documentaire qui a déjà été diffusé sur France Télévisions, que certains ont peut-être déjà vu. Et donc là, certaines des personnes qui témoignent ou qui ont pu participer du coup au contenu de ce film seront présentes pendant le ciné-débat, pourront éventuellement compléter les différents échanges ou répondre aux questions peut-être des personnes de l'Assemblée. Et donc l'idée, c'est aussi de faire un peu échange avec les spécialistes qui seront là pour répondre aussi aux questions et de voir comment on peut avancer et comment faire justement que ça ne se reproduise pas et qu'on fasse de notre église une maison sûre pour tous.
Depuis le début de cet entretien, vous parlez des victimes et vous nous dites, les victimes nous disent qu'elles souhaitent ceci, cela. Vous êtes en lien avec des victimes, en lien au long cours ?
Alors, moi, moins que mes collègues de la cellule d'accueil et d'écoute qui, elles, vraiment sont spécialisées, comme le nom de la cellule le dit, dans l'accueil et l'écoute des victimes, où elles prennent vraiment le temps de les recevoir, de discuter avec elles et voilà, de pouvoir les conseiller dans les différentes démarches possibles à faire. Moi, j'en ai quelques-unes qui m'appellent, mais c'est beaucoup plus des proches, en fait, qui m'appellent pour me demander justement quoi faire, qui m'appellent pour témoigner de ce qu'elles vivent, pour témoigner parfois aussi de la difficulté face à certaines victimes qui ne souhaitent pas se faire connaître, mais dont les proches sentent en fait qu'elles souffrent, qu'elles auraient besoin d'aide et donc de pouvoir voir un peu ce qui est possible de faire. Et puis ça, c'est plus, on va dire, pour les victimes adultes aujourd'hui. Après, j'ai aussi des personnes qui me contactent parce qu'il y a des situations avec des enfants d'aujourd'hui qui les préoccupent, qui ont parfois simplement besoin de pouvoir mettre en mots ce dont elles sont témoins ou de ce que les enfants ont pu témoigner. Et puis, j'ai aussi des personnes qui m'appellent en soutien pour faire des informations préoccupantes, voilà, et de se dire justement comment on les fait, comment on les formule, qui il faut contacter, à qui il faut l'envoyer. Donc, voilà, je les aide un petit peu à mettre ça en place pour faire qu'on puisse signaler que des enfants sont en danger. Mais du coup, c'est pas forcément que des enfants victimes de l'Église. Voilà, aujourd'hui, notre action, elle est importante parce que l'Église est une maison sûre pour tous et qu'aujourd'hui, des enfants sont amenés dans leurs différents espaces, que ce soit à l'éveil à la foi, au caté, en aumônerie, voilà, de témoigner aussi de situations difficiles qu'ils rencontrent en famille, au collège, dans le quartier, dans le sport, enfin voilà, dans leur lieu de vie en fait. Et donc notre rôle est aussi de pouvoir prendre ça en compte et de pouvoir signaler qu'il se passe des choses difficiles pour ces jeunes et de faire que quand c'est dans des instances de l'Église, de pouvoir mettre en place nous voilà, les choses pour que justement ça ne se fasse plus et qu'on respecte la loi.
Vous dites des choses difficiles, des choses répréhensibles par la loi qu'on doit, comme tout citoyen, dénoncer.
Exactement. Tout citoyen est amené à dénoncer. Et là, en fait, on ne se dit pas est-ce que j'ai assez de responsabilités ? Est-ce que, en tant que laïque, est-ce que, en tant que religieux, en tant que prêtre, voilà. Tout citoyen, en fait, doit signaler des enfants qui sont en danger. Donc, c'est notre devoir à tous. Mais c'est pas parce que c'est notre devoir à tous que c'est forcément facile de savoir ce qu'il faut faire, parce que certains voilà, sont aussi un peu impressionnés par les démarches et que parfois de se faire accompagner ou de pouvoir en parler à quelqu'un, ça peut faire du bien et ça peut permettre aussi de poser les choses, parce que les révélations des enfants peuvent aussi comment impacter les adultes qui les reçoivent et que ça fait aussi écho à notre histoire, à notre éducation, à voilà, notre expérience, à notre vie de manière générale et que ça peut être parfois aussi difficile en tant qu'adulte d'entendre ce que vivent les enfants.
On est entré là dans le cœur du sujet de votre responsabilité de chargée de mission pour la protection des mineurs. Donc écouter, accueillir les questionnements d'adultes qui sont amenés à recueillir des témoignages d'enfants, mais de façon tout à fait par hasard en fait, au détour d'une conversation. Souvent les enfants lancent des signaux d'alerte.
Alors, on sait que les enfants lancent des signaux d'alerte, mais que souvent, ils ne sont pas entendus des adultes. Et que c'est un peu aussi dans ce sens-là et dans ce que je disais tout à l'heure, de dire, quand on les entend, qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne sait pas toujours. Et donc, c'est pour ça que Mgr Perceroux avait voulu rendre une formation obligatoire pour tous les encadrants d'enfants et de jeunes du diocèse, justement pour qu'on sache... quels sont les numéros obligatoires comme le 119 pour l'enfance en danger et qui puissent aussi repérer dans les instances du diocèse, par exemple, que mon poste existe et qu'il est possible de pouvoir m'appeler pour demander conseil et qu'ils ne se sentent pas seuls et de voir aussi justement quelles questions peuvent se poser en équipe, comment en paroisse on peut réfléchir à tous ces éléments-là. Donc la formation Stop Abus, Protéger l'enfance qu'on propose sur le diocèse est vraiment bâtie comme ça, avec une partie... on va dire de re-formation qui est peut-être un peu plus théorique, bien que liée à nos activités pastorales, justement, de se dire comment la loi s'applique aussi dans nos instances d'église. Mais avec, dans cette formation, une deuxième partie en présentiel, où l'idée, c'est vraiment d'étudier des études de cas, mais avec des gens avec qui on est envoyé en mission, des gens de notre paroisse, des gens de notre service, voilà, pour faire que ces études de cas, peut-être, elles permettent de révéler des questions qu'on ne s'est pas posées ou de se rendre compte qu'une question qui nous paraissait claire pour nous, selon la personne de l'équipe qui serait confrontée, bah, qu'en fait, on n'y répondrait pas pareil, voilà, et de pouvoir vraiment poser les choses. Et elle est vraiment très appréciée par l'ensemble des participants à cette formation.
C'est une formation obligatoire ?
Exactement, une formation obligatoire qu'on a commencé à mettre en place il y a un an. Donc on a déjà 630 personnes d'inscrites. Voilà, sur l'ensemble des deux sessions, on doit être aux alentours de 350 ou 400 personnes qui ont déjà fait l'ensemble de la formation. Comme c'est une nouvelle formation, par exemple, aujourd'hui, pour partir au pèlerinage de Lourdes, la première partie théorique est une formation obligatoire. Un accompagnateur, un animateur de jeunes ne pourra pas accompagner à Lourdes s'il n'a pas fait cette première partie. Et l'idée, c'est qu'à partir de la rentrée prochaine et à terme, l'ensemble de la formation soit obligatoire avant d'être envoyé en mission auprès des enfants au nom de l'Église.
Que l'on soit salarié ou bénévole, que l'on intervienne auprès d'eux une fois par an pour le pèlerinage à Lourdes ou toutes les semaines ou tous les mois ?
Exactement. Que l'on soit laïque, prêtre, diacre, religieux, que l'on soit catéchiste depuis 20 ans ou accompagnateur d'un groupe d'aumônerie depuis un an, en fait, tous les encadrants d'enfants et de jeunes ont cette formation obligatoire à faire.
Elle dure combien de temps ?
La e-formation, elle dure à peu près 1h30, 2h. Après, ça dépend aussi des gens. Voilà, il y a différentes petites vidéos à voir. Elle peut se faire en plusieurs temps. L'avantage de la e-formation, c'est que du coup, les personnes peuvent la faire quand elles ont le temps, c'est-à-dire une fois que les enfants sont couchés, c'est-à-dire en journée pour ceux qui sont plus disponibles. Voilà, ça s'adapte vraiment au temps des personnes. Et la partie en présentiel dure 3h. Voilà, comme je disais tout à l'heure, avec des gens de la paroisse et du service et animé par moi-même et par les responsables diocésains à la jeunesse.
600 personnes, ça paraît conséquent. On est vraiment dans la totalité de ceux qui sont en lien avec de la jeunesse au nom de l'Église en Loire-Atlantique ?
Alors non, on n'est pas dans la totalité, j'en ai encore pas mal qui arrivent. On a du mal à se rendre compte du nombre de bénévoles, enfin de personnes, c'est même pas que des bénévoles, mais des personnes engagées auprès des enfants et des jeunes sur l'ensemble des paroisses du diocèse. Là, on se dit qu'en une année, on a commencé à faire un tour, mais on sait pertinemment que sur toutes les paroisses, il reste encore des bénévoles à aller former. Et que donc, c'est une formation de toute façon qu'on va continuer à promouvoir dans les années à venir.
Quels sont les échos des participants ? Est-ce qu'ils viennent avec intérêt, enthousiasme ou en traînant les pieds?
Eh bien, on a de tout. On a des gens, en fait, qui parfois, par leur expérience professionnelle, disent bah, « en fait, c'est des infos que je sais déjà, pourquoi il y aurait besoin de les réapprendre ?» Alors après, nous, on insiste en disant que c'est aussi bien que toutes les personnes de l'équipe entendent les mêmes informations et les mêmes échos pour pouvoir débattre et que, justement, l'expérience professionnelle ou même bénévole ou personnelle de chacun va permettre de nourrir l'équipe et de pouvoir apporter... Un peu plus d'informations, donc ça ne peut être que bénéfique. Après, on a aussi parfois des craintes par rapport à l'outil informatique, au quiz, où certains s'inquiètent de ne pas avoir la moyenne, de ne pas avoir le résultat nécessaire. Mais une fois dépassées toutes ces craintes, on a vraiment des retours très, très, très positifs. Les gens sont vraiment contents. La partie étude de cas qui, pour certains, pareil, pourrait paraître 3 heures peut-être un peu longue, les gens repartent en disant on comprend aussi pourquoi on nous a parlé de la question du consentement, de la majorité, de la notion de responsabilité, de la juste distance éducative. Voilà, toutes ces notions qui sont abordées dans la e-formation, là, elles prennent vraiment sens dans les études de cas.
Est-ce que pour autant, il reste... des choses à faire en termes de formation, à votre avis ?
Ah, il reste toujours à faire en termes de formation. Là, c'est vraiment un gros axe qu'on essaye de se donner et qui nous prend énormément de temps. Mais l'année dernière, on avait fait une formation sur recueillir la parole de l'enfant. Et on voit bien que ça avait été très apprécié. Des formations à l'écoute aussi sont importantes parce que c'est pas simple de recueillir la parole de l'enfant, justement. Et comment ne pas y mettre, nous, notre compréhension d'adulte à travers ce qu'ils disent, quand on dit dans une information préoccupante d'être très factuel, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'y note, comment je note. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, on va dire, d'un point de vue très technique qui sont nécessaires. Et puis il y a aussi toutes les formations pastorales qu'on peut amener qui vont aider en fait dans la posture d'un bénévole pour être catéchiste, pour accompagner des servants d'hôtel, toutes les réunions de préparation pour les pèlerinages de Lourdes, de Thésée, pour savoir justement comment accompagner au mieux les jeunes et les enfants dans leur démarche spirituelle et de se dire accompagner son enfant en tant que parent qui rentre dans une démarche catéchétique et puis accompagner un groupe d'enfants ou de jeunes, c'est différent, c'est une responsabilité, même si c'est pas la même, puisque des familles nous confient en fait leurs enfants et leurs jeunes, et donc c'est important de pouvoir avoir cette posture adaptée.
Un autre garde-fou peut-être mis en place après la SIAZ et dont vous êtes chargée, c'est le recueil des casiers judiciaires de toutes ces personnes. C'est celles-là qui sont concernées ?
Exactement, ça a été le tout premier chantier que j'ai mis en place à mon arrivée en poste, qui est que chaque année, on demande à l'ensemble des bénévoles leur extrait de casier judiciaire. Le volet numéro 3 qu'on demande aussi dans pas mal d'associations, qu'on demande parfois pour les sorties scolaires dans les écoles. Voilà, c'est quelque chose maintenant qui est un peu rentré dans les basiques, on va dire, de l'accompagnement d'enfants et de jeunes. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important. On l'avait mis en place aussi après la SIAZ par rapport aux prêtres, par rapport aux diacres et toutes les personnes... qui avait reçu mission. Mais l'accord que l'évêque a passé avec le procureur a permis de se dire qu'aujourd'hui, si un prêtre était soupçonné ou s'il y avait quelque chose, l'évêque en serait informé. Et que donc, ça nous permettrait de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour préserver les victimes et aussi pour essayer de préserver l'auteur.
Ces demandes-là d'extrait de casier judiciaire, j'imagine qu'elles ont encore plus surprise que la formation qui est rendue obligatoire.
Alors oui, parce que les gens prennent vraiment, pour beaucoup, prennent ça aussi un peu comme un manque de confiance. Alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est simplement de se dire des familles, des enfants, des jeunes nous font confiance pour accompagner leurs enfants et leurs jeunes tout au long de l'année. Et ça fait partie, on va dire, des garanties, entre guillemets, que l'Église peut prendre. Comme je le disais, comme des associations sportives ou des associations jeunesse, pour montrer que justement les personnes qui avons accompagné leurs jeunes sont bienveillantes, sont dans de bonnes conditions. Après, l'extrait de casier judiciaire ne fait pas tout, mais permet déjà de pouvoir avoir quelques renseignements et de pouvoir aussi peut-être faire que certains auteurs qui pourraient être tentés d'accompagner nos jeunes ne se présentent pas du fait de voir que on met cette démarche-là en place.
Il y a d'autres missions dans votre action ?
On en a déjà évoqué pas mal, donc vraiment la formation, ça reste une grosse partie. Le soutien pour les demandes d'extrait de casier judiciaire qui demande aussi une certaine logistique et de pouvoir aussi expliquer aux gens pourquoi c'est important de le faire, de pouvoir aussi faire que les personnes qui demandent les extraits de casier judiciaire se sentent à l'aise avec l'idée de les demander, de leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire contrôler les extraits de casier judiciaire, voilà les petites étapes à faire, donc de pouvoir les guider. Et puis après, toute la partie soutien, appel, qui est importante, parce qu'après chaque soirée stop abus qu'on propose, où je rencontre du coup les gens, j'ai toujours des appels en fait à la suite de ces soirées-là pour évoquer des situations personnelles ou liées aux missions. Par rapport à des situations d'enfants qui les questionnent.
On a quand même envie de comprendre comment on devient chargé de mission pour la protection des mineurs. Comment vous en êtes arrivé là ? Qu'est-ce qui vous y a poussé ? Ou invité parce que, Monseigneur Persereau vous a demandé.
Oui, c'est ça. C'est un appel de Monseigneur Persereau. Je ne sais pas par où commencer. Il y a différents chemins, en fait, qui m'ont amené ici. Professionnellement, je suis éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'ai beaucoup cheminé dans des mouvements d'action catholique d'enfants et de jeunes qui ont fait aussi que la parole de l'enfant, la parole du jeune est importante et qu'on a envie qu'il soit écouté, qu'on prenne soin d'eux et que qu'ils puissent devenir des adultes et des acteurs de la société et de l'Église épanouis, en fait. Et donc, je crois qu'on est venu spontanément après un peu vers moi pour me poser des questions par rapport à ces thématiques-là. J'ai longtemps été engagée dans l'association Tabor 44, qui permet de déclarer tous les camps de paroisse, d'aumônerie, et qui gère un agrément de service civique aussi pour le diocèse avec différents volontaires. Donc en fait, cet engagement m'a aussi amené à avoir un regard par rapport à la réglementation, à ce qu'il faut faire et justement de se dire comment cette réglementation s'applique dans nos activités pastorales aujourd'hui. Et je pense que c'est toute cette expérience qui fait que Monseigneur Persereau est venu me voir pour me faire cet appel que j'ai forcément accueilli. Avec enthousiasme, on va dire, même si c'est un sujet qui est difficile, mais parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Il faut en fait qu'on se pose ces questions-là, qu'on avance, et pour faire qu'on soit fiers de notre Église et de ce qu'elle met en place.
Vous aussi, vous avez dû vous former pour ensuite pouvoir former les autres.
Exactement, j'ai dû me former, je me forme encore, parce que ça bouge beaucoup, mais avant d'être appelée, en effet, j'ai fait une formation à la Conférence des évêques de France avec des collègues qui soit s'occupent de prévention, soit sont aussi dans des cellules d'accueil et d'écoute, pour aussi prendre la mesure de cette thématique, de voir comment l'Église aussi a évolué, comment la société a évolué face à ces questions et quelles questions aujourd'hui se posent. Et sur là où sont les nouveaux défis, en fait, pour l'Église aujourd'hui. Et donc, tous les ans, on a des réunions, on a des rencontres, justement, pour mettre en éclairage certaines thématiques et pouvoir réfléchir ensemble pour faire que, quand on revienne sur notre diocèse, on puisse aussi rayonner, mais pas chacun dans son coin, mais vraiment en essayant de mettre à profit l'ensemble de l'Église de France.
Êtes-vous nombreux en France à avoir cette mission ?
Alors, nombreux, j'irai pas jusque-là. Je ne saurais pas quantifier ce qu'on n'a pas tous les mêmes rôles, les mêmes responsabilités. On a des personnes qui sont bénévoles, des personnes qui sont salariées, des personnes qui font ça en complément d'un autre poste. Donc, c'est vraiment très, très diversifié. Je vois sur la formation Stop Abus Protéger l'Enfance, il me semble qu'il y a à peu près la moitié des diocèses de France qui sont engagés dans cette dynamique de formation. Ceux qui ne le sont pas, ça ne veut pas dire qu'ils font rien, parce que, par exemple, sur la province, il y a d'autres diocèses où, en fait, ils proposent d'autres types de formations. Donc on voit bien que chaque diocèse a le souci de cette question. Après, peut-être aussi, selon son histoire, selon les cas qu'ils ont pu rencontrer, voilà, le prennent peut-être de manière différente, mais c'est quelque chose qui avance quand même. Et là, fin mars, à l'Assemblée plénière des évêques, on a justement une session d'un jour et demi sur les questions liées aux abus et aux violences sexuelles. Et ça va permettre aussi de rencontrer l'ensemble des collègues, voilà, salariés ou bénévoles, qui réfléchissent autour de ces questions pour qu'on puisse toujours être mettre en commun, partager nos expériences, nos richesses. Tout à l'heure, hein, je parlais de différents parcours professionnels. Dans mes collègues qui s'en occupent, il y a des juristes, il y a des médecins, il y a des psychologues, mais il y a aussi des personnes qui ont été victimes. Il y a des personnes qui simplement ont voulu s'investir dans cette cause parce qu'elle est importante, mais n'ont pas forcément de, on va dire, de compétences professionnelles, mais ont des compétences personnelles ou des expériences qui font qu'elles ont envie, en fait, de s'engager dans cette démarche. Donc tous nos regards sont très riches et permettent justement une expérience d'église plus diversifiée.
C'est la dernière question. Est-ce que vous êtes optimiste face à la situation actuelle de l'église ?
Je suis optimiste dans le sens où l'Église bouge, qu'elle met des choses en place, que voilà, on voit tout le temps quand même malgré tout des choses dans l'actualité qui nous font peut-être parfois un peu baisser les bras, mais au contraire, moi je trouve que c'est parce que ça nous témoigne que c'est pas simplement dans le passé, mais que c'est encore un problème d'actualité qu'il faut que l'Église s'engage. Comment dans tous ces processus, dans tout ça, et je suis convaincue, je le dis à chaque formation, que seule j'y arriverai pas, et que de faire les formations, c'est aussi de faire que bah, on soit plus fort tous ensemble, et que ensemble on puisse tous faire et participer au fait que notre église est une maison sûre et que ça ne dépend pas seulement de décisions des évêques ou du fait d'embaucher une personne en protection des mineurs.
Merci beaucoup Solène, bon courage pour la suite de la mission et bon temps de rencontre donc à Châteaubriant, c'est le 28 mars.
Exactement, le 28 mars à 18h à l'église Saint-Nicolas.
Merci.